Chers frères et sœurs, bonjour. Pourquoi, au XXIe siècle, sommes-nous toujours à l'écoute de Jésus-Christ? Pourquoi les enseignements de Jésus-Christ ont-ils bouleversé tant de personnes et scandalisé tant d'autres, d'ailleurs? Jésus a été unique en bien des choses. Et je vous propose de n'en retenir qu'une ce matin. Il a été radical. Radical, ça vient du mot racine, en latin. Ça veut dire que Jésus est allé voir à la racine de nos êtres, de la loi de Dieu. Il ne s'est pas contenté de la surface, mais il est allé profondément. Aujourd'hui, quand on parle de quelqu'un de radical, c'est une critique. La radicalisation, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Il y a même en France des centres anti-radicalisation. Eh bien, nous, notre Église, c'est un centre, alors là, je vais être provocateur, hein, centre de radicalisation. Mais au sens où Jésus l'a fait, je vous rassure, c'est-à-dire en venir au sens le plus profond de la loi de Dieu. Et ne pas nous contenter de la surface. Cette radicalisation-là, je pense, n'est ni violente ni malfaisante et elle est bénéfique pour tout le monde. Jésus a amené les pratiques religieuses de son temps, les juifs du premier siècle, à ce qu'elles avaient ou à ce qu'elles devaient avoir de plus profond, de plus intérieur, de plus fondamental, de principal. C'est le sens de ces petites phrases qui ont été répétées plusieurs fois dans le sermon sur la montagne. Mais moi, je vous dis, Jésus prend à 6 reprises des éléments soit du décalogue, soit de la loi juive en général, et leur donne un sens radical. Le plus radical, le plus exigeant. Il nous choque, et j'ai du mal avec les textes que nous allons lire. Le plus intérieur. Prenons ces quelques phrases, donc c'est dans le chapitre 5 de Matthieu, et essayons de tirer le son de ce que Jésus dit. À chaque fois, il y a cette articulation, « Vous avez entendu qu'il a été dit », et là Jésus cite, et ensuite Jésus rétorque, « Mais moi je vous dis ». Et là Jésus donne un propos très radical. Alors, prenons les versets 21 et le suivant. Première affirmation, je les prendrai l'une à la suite de l'autre avec quelques commentaires, et ce sera mon propos d'aujourd'hui. Verset 21, donc, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible de jugement. Mais moi, je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère de raca, alors d'autres traductions disent imbécile, alors en alsacien je sais, il y a des tas de mots pour ça, mais je vous les laisse, sera passible du Sanhédrin. Celui qui le traitera de fou, pareil pour l'alsacien, c'est bizarre d'ailleurs qu'en alsacien, il paraît-il beaucoup un vocabulaire très fleuri dans ce domaine. Sera passible de la géhenne de feu. Si donc tu vas présenter ton offrande sur l'autel, je vous rappelle c'est le contexte juif, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Et puis les versets suivants parlent de s'arrêter avant d'aller à un tribunal, régler une affaire, vaut mieux régler l'affaire avant d'aller au tribunal. La manière dont s'exprime Jésus, on le voit, est entière. Qui d'entre nous n'a pas eu des pensées du style « c'est un pauvre imbécile » cette semaine, dans les semaines passées peut-être, avouons-le. Nous avons parfois des pensées peu charitables pour un certain nombre de nos contemporains. Et ici, Jésus se fait comprendre très clairement. Il dit que ce n'est pas parce qu'on n'a pas commis de meurtre qu'on n'est pas malfaisant à l'égard de notre entourage, de son entourage. C'est le même registre, celui de commettre un meurtre dont nous nous défendons tous, et avec raison, et celui de l'insulte ou du mépris. Je voudrais vous lire, pas si souvent, j'espère que vous me pardonnerez, un extrait d'un livre qui s'appelle « L'Évangile médité par les pères ». Alors, pères, c'est pas les papas, hein, c'est les pères de l'Église, les anciens. Et là, il s'agit d'un chrétien oriental du 6e et 7e siècle qui s'appelle Maxime le Confesseur. À propos de ce que je viens de vous lire, des paroles de Jésus. « Veille sur toi-même. Prends garde que le mal qui te sépare de ton frère ne se découvre pas un jour, non pas en ton frère, mais en toi. Hâte-toi de te réconcilier avec lui, afin de ne pas déchoir du commandement de l'amour. Es-tu en train de connaître l'épreuve du fait de ton frère, et la tristesse est-elle en train de te mener à la haine ? Ne te laisse pas vaincre par la haine, mais sois vainqueur de la haine par l'amour. Voici comment tu vaincras, en priant sincèrement Dieu pour lui, en acceptant qu'on l'excuse, ou même en te faisant toi-même son défenseur, en considérant que tu es toi-même responsable de ton épreuve, et en la supportant avec patience jusqu'à ce que le nuage soit passé. Le frère dont tu considérais hier qu'il était spirituel et vertueux, ne le juge pas faux et méchant à cause de l'aversion d'aujourd'hui, car cette aversion t'est inspirée par la calomnie du malin. Rejette donc de ton âme cette aversion. Rejette-la par l'amour patient, en pensant au bien que ton frère, hier, t'a procuré. Celui dont, hier, tu louais la bonté et glorifiais la vertu, ne dis pas du mal de lui aujourd'hui, en considérant qu'il est faux et méchant, parce qu'en toi, l'amour s'est changé en aversion. Ne blâme pas ton frère pour justifier la haine mauvaise qui est en toi, mais continue de le louer quand bien même t'accablerait la tristesse, et tu reviendras aisément à cet amour salutaire. » Fin de citation. Deuxième antithèse, c'est comme ça qu'on les appelle, de Jésus, versets 27 à 30. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et c'est là un des commandements du décalogue. « Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n'aille pas tout entier dans la géhenne. » On est choqué par ce texte. On a du mal avec ce texte. Jésus, pour être radical, là, il est radical. A priori, ce texte s'adresse aux hommes, avec le même raisonnement que précédemment. C'est pas parce qu'on s'est pas jeté sur une femme qu'on n'a pas commis à l'intérieur de soi-même des péchés par la pensée. Jésus se fait comprendre très clairement. C'est le même registre. Celui de commettre l'adultère et celui de le penser. Je ne pense pas qu'il faille réduire ce texte à telle ou telle situation, quelqu'un de marié, pas marié, ce genre de choses. Je pense que le propos de Jésus doit être étendu à tout ce qui y est de l'ordre de la convoitise sexuelle, y compris peut-être d'ailleurs pour vous, mesdames. Jésus se fait comprendre et aborde des solutions violentes. C'est une manière de dire, je pense qu'il faut la prendre ainsi l'expression de Jésus à propos de l'œil et de la main. C'est une manière déjà de dire que le problème, il est chez moi. Il est chez la personne qui regarde, et non pas chez la personne qui est vue, dans les propos de Jésus. Et il sous-entend aussi que certains regards, certains de nos regards, sont néfastes, sont mauvais. Je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de s'arracher un œil, sinon pourquoi un seul ? On pourrait arracher les deux. Donc il ne faut pas voir de cette phrase de Jésus une lecture littérale, mais simplement dire « j'ai des dispositions à prendre dans ma vie pour éviter ces regards, ces pensées, ces actions ». Je dois réagir face à la tentation, même si elle n'est que intérieure. Et Jésus nous appelle à ce que l'on appelle la discipline intérieure, la discipline personnelle, qui est un combat pour moi comme pour vous, un combat de chaque jour. Ce n'est jamais gagné, mais nous devons lutter. C'est un combat de discipline personnelle. C'est aussi une invitation à un regard respectueux que nous posons les uns sur les autres. Que les hommes posent sur les femmes un regard respectueux, comme leurs égales, comme des êtres humains et non pas des personnes à conquérir. L'actualité, malheureusement, nous dit que ce n'est pas toujours le cas. Vous avez entendu que Mulhouse est tristement célèbre aux informations nationales ces derniers jours, puisqu'il y a eu un viol collectif par des jeunes de, je crois, entre 14 et 16 ans, d'une pauvre fille de 14 ans. Mais enfin, est-ce qu'on se rend compte du regard que ces jeunes ont porté sur elle ? Et ils n'ont pas fait que la regarder, malheureusement. Et on pourrait peut-être penser qu'il s'agit de jeunes dépravés et de milieux dans lesquels ils n'ont pas reçu d'éducation. Mais dans le milieu politique, qu'est-ce qu'il y a eu comme information ces dernières semaines sur des comportements d'hommes politiques tout à fait incorrects à l'égard de leurs collègues féminines ? Peut-être qu'il faudrait leur lire ce texte qui les choquerait tout autant qu'il nous choque et provoquerait la réaction que Jésus veut réagir. Prends tes dispositions et de la discipline à l'intérieur de toi pour porter sur les autres un regard sain, un regard respectueux. Nous en avons besoin. Et que ce genre de choses, ce genre de que je viens de citer de l'actualité, ne se passe pas dans notre Église. Que dans notre Église, les hommes portent sur les femmes des regards respectueux, fraternelle, et non pas comme ceux que Jésus décrit. De même peut-être pour les femmes. Troisième antithèse. C'est un peu le même domaine. Il a été dit, versets 31 et 32, c'est à propos du divorce. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une attestation de rupture. Alors ça, c'est un extrait, on trouve ça dans le livre du Deutéronome, chapitre 24. Mais moi, je vous dis, et c'est donc Jésus qui prend sa position de rabbin plein d'autorité et qui prend surtout sa position de fils de Dieu qui a cette pleine autorité divine pour dire son enseignement, pour donner son enseignement. Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'inconduite sexuelle, la rend adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Alors, je ne crois pas utile de disserter sur le divorce, les cas de remariage et ce genre de choses. C'est un texte qu'on cite et qu'on doit étudier dans l'étude de ce qu'est le mariage et de ce que peut être le divorce. Ce que je retiens, c'est que Jésus s'oppose à un propos où le divorce est « bon, il n'y a qu'à avoir les papiers, quoi ». Les propos, c'est que celui qui répudie sa femme lui donne une attestation de rupture, et puis après, hop là, c'est fini. C'est un genre de banalisation du divorce qu'on connaît aujourd'hui, d'ailleurs. Je ne veux pas du tout critiquer qui que ce soit qui a connu le divorce. C'est avant tout une souffrance pour les personnes qui le connaissent. Ne vous méprenez pas sur mes propos, ni sur les propos de Jésus. Jésus dit qu'il faut travailler le mariage avant tout, que dans une certaine école religieuse, dans le judaïsme du 1er siècle, on divorçait pour un rien. Vous vous souvenez de cette interrogation de certains juifs rapportée par l'évangile de Matthieu, peut-on divorcer pour n'importe quel motif ? Bien, ça correspond à une école d'interprétation, une école rabbinique juive, où effectivement on avait une liste impressionnante de motifs pour lesquels on pouvait divorcer. Alors c'était tout et n'importe quoi. Une autre école était plus dure et restreignait beaucoup les possibilités de divorce. En somme, Jésus dit qu'il n'y a pas de divorce simple. Les personnes qui ont connu un divorce parmi nous, et je les salue fraternellement, peuvent en parler mieux que moi. Un divorce, c'est une souffrance. Un divorce, c'est quand on n'est pas arrivé à mener à bien un projet qu'on s'était fixé avec une autre personne. Et ces choses font mal. Et ces choses ont des conséquences. C'est pas facile. C'est lourd à porter. Et même si les lois le permettent, et heureusement dans certains cas qu'une séparation est possible, il faut le dire. Jésus a une expression très entière, de nouveau, très, très, très extrême, très radicale, pour nous faire réfléchir. Et pour nous faire réfléchir à l'importance de construire nos mariages, nous qui sommes mariés, de construire, de consolider nos relations de couple, de faire en sorte que nos couples soient solides, parce que nous, êtres humains, sommes tous assez fragiles devant des engagements à très long terme. Donc finalement, je pense que ce texte, dans la bouche de Jésus, nous encourage plutôt à tout simplement consolider autant que nous pouvons, nous qui vivons en couple, mariés, consolider nos relations pour éviter d'aller là. Ce n'est pas juste donner un papier, un divorce, ça fait beaucoup plus mal que ça. La suite, verset 33. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus sur ta tête ou par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Et Jésus conclut, que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on ajoute vient du mauvais. Je me souviens d'une discussion que nous avons eue dans une présentation du calendrier interreligieux dans une école, et où il y avait une petite fille qui disait ça. C'était une petite fille musulmane, et en islam, comme visiblement dans le judaïsme du 1er siècle, il y a un genre de, vous savez, des cas différents, où si je jure de telle manière, finalement, je suis pas obligé de dire tout à fait la vérité, mais si je jure de telle manière, alors là, je dois dire vraiment la vérité. Enfin, tout un ensemble de règles, de telle manière qu'on puisse parler sans trop vraiment dire la vérité. Et Jésus balaye tout ça du revers de la main. Il dit, tu jures par le ciel. T'es qui pour jurer par le ciel? C'est Dieu qui habite le ciel. Tu jures par la terre. T'es qui pour jurer par la terre et engager la terre dans ton serment? C'est le marchepied de Dieu. Etc, etc. Et Jésus nous appelle simplement à avoir une parole honnête. Souvenez de la parabole des deux fils. Il y en a un qui avait dit oui, qui n'a pas fait. Son père lui demandait de faire quelque chose. Il a dit « Oui, oui, j'y vais », puis il ne l'a pas fait. L'autre, il a dit « Non, je n'y vais pas », puis il l'a fait. Alors, le deuxième, c'est déjà mieux que le premier. Jésus, encore, Jésus ne dit pas que votre parole soit « Oui, non » ou « Non, oui ». Ça, c'est la parabole. Vous me suivez? Il dit que votre parole soit « Oui, oui » et pas le héros de bande dessinée, s'il vous plaît. Que votre parole soit « Oui, oui » ou « Non, non ». Rions de nous-mêmes, chers amis, parce que franchement, il y a des fois, notre parole, c'est pas ça du tout. On a peine à être honnête dans nos paroles. Il y a des fois, c'est très difficile, et je le dis en premier pour moi. Ça ne veut pas dire, d'un autre côté, que nous ne devons pas faire preuve de retenue dans nos paroles. Il y a des gens qui vous disent, qui vous assènent des vérités, mais alors, c'est des bulldozers, ces vérités. Que dis-je? C'est une armée, cette vérité. Et alors, ils vous disent, moi, je suis franc. Ah, la belle excuse. Pour avoir des paroles blessantes, ça, c'est une excuse. Moi, je suis franc. Je dis ce que je pense. Alors, d'une part, tu ferais mieux de ne pas penser ce que tu penses, et d'autre part, tu feras encore mieux de ne pas le dire. Parce que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il faut de la retenue. La franchise n'est pas sans retenue. Et puis quand j'aime la personne à qui je parle, il y a des choses que je vais lui dire d'une certaine manière. Vous avez déjà pensé à ça ? La franchise, de toute manière, elle doit tenir compte de la personne à qui je parle. Elle doit parler son langage. Elle doit éviter certaines choses pour ne pas blesser. J'appelle ça la sensibilité. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, mais que votre parole soit maîtrisée et que votre parole soit sensible. Que votre oui soit oui, non, non, et que votre parole soit aussi modeste. Parce que même si je dis ce que je pense, ça peut être faux. Même si je dis ce que je pense, je peux être quand même maladroit et l'exprimer très mal, de manière à, sans arriver à bien me faire comprendre. Donc ce que Jésus dit ici, c'est d'être honnête dans nos paroles. Soyons de celles et ceux, dont la parole est connue pour être valable, de celles et ceux qu'on vient écouter, qu'on vient consulter. Alors, je ne dis pas ça pour dire on incarne toute la sagesse du monde, ce n'est pas ça du tout, mais soyons de celles et ceux à qui il fait bon parler, qui ont une parole, dit ailleurs l'Écriture, assaisonnée de sel. Je ne sais pas si vous avez déjà été astreint à un régime sans sel. Moi, parfois, j'ai goûté de la cuisine vraiment sans sel. C'est pas marrant. Hein. Tandis qu'un plat bien assaisonné, alors du sel et des tas d'autres épices, c'est magnifique. Ayons cette parole magnifique pour celles et ceux qui nous entourent. Que votre oui, tout simplement, soit oui. Je vous rappelle la suite. Tout ce qu'on y ajoute vient du mauvais, dit Jésus. Il peut y avoir... bien sûr, encore bien des choses à dire, mais je vais passer au point suivant, verset 38. Et à chaque fois, vous avez perçu que, depuis le verset 21, nous avons une donnée de départ qui est de l'ordre de la loi, de l'ordre légal, de l'ordre des bonnes manières. Ne pas agresser quelqu'un, ne pas commettre d'adultère, etc. Mais vous voyez bien que Jésus va beaucoup plus profondément dedans, dans le sens. C'est pour ça que je parle de radicalité. Verset 38. Vous avez entendu qu'il a été dit « œil pour œil, dent pour dent ». Mais moi, je vous dis de ne pas vous opposer au mauvais. Et là, de nouveau, nous avons une phrase qui nous embête. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Je ne vais pas vous proposer l'exercice pratique à la fin du culte. Mais reconnaissez avec moi que c'est une phrase qui n'est pas évidente. Nous allons voir. Si quelqu'un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-lui aussi ton vêtement. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande... et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Alors là, le 1 000, c'est donc une distance à parcourir avec quelqu'un. Certains commentateurs pensent qu'il y a éventuellement des réquisitions qui étaient possibles par les soldats romains. Le soldat romain, d'ailleurs, ça s'est fait pour Simon de Cyrène, quand il était question de porter la croix de Jésus. Il a tout à coup appelé un homme et dit « Toi, aide Jésus à porter la croix », puisque Jésus n'arrivait pas à porter sa croix. Et là, c'est la même chose. Si quelqu'un te réquisitionne pour porter quelque chose, ou pour parcourir une distance, fais-en le double. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter quelque chose. Je vous entends d'ici dire « oui, mais ». Je le dis aussi. Mais en même temps, qu'est-ce qu'a voulu dire Jésus ? C'est la loi du talion que nous avons sous les yeux, œil pour œil, dent pour dent, qui est une loi édictée dans l'Ancien Testament. Le talion, ça vient d'un mot qui veut dire la même chose. Donc, ce que tu m'as fait, je te le fais. Et ça pouvait aller très loin. J'ai lu, alors c'est pas dans la Bible, ce n'était pas que dans la Bible, dans tout l'Orient ancien, il y avait cette loi du talion. Ça pouvait aller très loin. J'ai donc lu un texte où quand un maçon construit une maison qui s'effondre, si en s'effondrant la maison, tue le maître de maison, ben le maçon doit mourir. Si la maison tue, l'effondrement tue un serviteur ou un enfant, c'est l'enfant du maçon qui doit mourir. Ça allait très très loin, cette loi du talion. Et c'est aussi un certain... Certains disent que c'est pour éviter l'escalade, c'est-à-dire, ce que tu m'as fait, je te fais le double, comme ça tu t'apprendras à ne pas le faire. Si tu m'as donné un coup de poing, moi je t'en donne deux. Si je suis en état de te donner les deux, si tu m'en as donné un. Donc Jésus dit, il faut briser le cycle de la violence. Il désamorce, mais de manière radicale, puisqu'il va jusqu'à offrir, ou proposer d'offrir, la joue droite à celui qui a déjà frappé la joue gauche. C'est quand même assez contraire à notre manière de voir. Ceci dit, souvenez-vous de l'œil arraché que nous lisions il y a quelques minutes. L'œil arraché, c'était quelque chose, nous convenons que c'est une image, c'est une image très forte, radicale, qui doit nous piquer, nous choquer et nous faire réagir. Peut-être que la joue droite et la joue gauche, on peut le lire de cette manière. C'est-à-dire, tu dois être prêt même jusqu'à recevoir un deuxième coup de celui qui t'en a donné un. Tellement tu vas casser le cycle de la violence. S'il y a une violence, là c'est contre le cycle de la violence. L'enseignement profond que donne Jésus ici au travers de ses propos radicaux, c'est de ne pas laisser le mal générer le mal, de ne pas laisser le mal se développer, mais de vaincre le mal, et c'est dit ailleurs, par le bien, et même par la générosité. Et de ce point de vue-là, l'enseignement de Jésus est très pertinent. On en parle aujourd'hui encore, et pas que par des chrétiens, du fait de cesser, de faire cesser les conflits, à un moment donné, sans chercher forcément, en abandonnant l'idée de la vengeance et de la rétribution, en souffrant d'une injustice pour faire cesser ce cycle de la violence qui ne sert à personne. Alors ce sont des propos qui mériteraient, bien sûr, toute une dissertation sur la non-violence, sur la politique, sur l'armée, sur toutes sortes de sujets. Permettez-moi de simplement effleurer ce sujet et de nous interpeller, moi le premier, sur nos pulsions. Si quelqu'un me frappe, quelle est ma réaction? C'est pas de tendre l'autre joue. Et c'est là que Jésus me parle. Si j'essaye au moins de tendre l'autre joue, le premier effet, ce sera que je ne serrerai pas mon poing. Ensuite, peut-être que je m'orienterai vers l'autre et que j'aurai ce souci de rendre le mal, de rendre le bien pour le mal que j'ai reçu. Nous avons, je pense, beaucoup à apprendre de ces propos radicaux de Jésus, si nous les comprenons comme tels. Ensuite, aimer, haïr, l'amour pour les ennemis. Vous avez entendu verset 43, c'est le dernier, la dernière des antithèses. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi ». Alors, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous vous souvenez que Jésus avait cité ce commandement comme un des grands commandements qui fait la paire par rapport au premier qui est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta pensée, de toute ta force ». Suivant les endroits, ces différentes expressions se trouvent ici ou là. Et là, vous avez noté, je pense, que ce n'est pas « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », point. Tu aimeras ton prochain comme tu aimeras ton prochain et tu détesteras tes ennemis. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les collecteurs de taxes, et ils étaient très mal réputés, hein, les collecteurs de taxes eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les non-juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Alors, qu'un juif dise à d'autres juifs que les non-juifs, vous me suivez, font mieux ou font au moins autant, c'est très blessant pour les Juifs. Les non-Juifs eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous serez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Alors, le mot parfait, bien sûr, est à prendre avec différentes nuances suivant l'emploi qui en est fait de cette phrase, dans cette phrase. Qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Rien. Si, peut-être. Je vais de nouveau vous citer un commentaire. Alors, cette fois, il s'appelle Silouane du Mont Athos. Et c'est un moine russe des 19e et 20e siècles. Je vous en supplie, faites un essai. Si quelqu'un vous offense ou vous méprise, ou vous arrache ce qui vous appartient, ou persécute l'Église, priez le Seigneur en disant « Seigneur, nous sommes tous tes créatures, aie pitié de tes serviteurs et tourne-les vers le repentir. Alors tu porteras perceptiblement la grâce dans ton âme. Au commencement, force ton cœur à aimer tes ennemis. Alors le Seigneur, voyant ta bonne intention, t'aidera en tout, et l'expérience elle-même t'instruira. Quand tu prieras pour tes ennemis, la paix viendra sur toi. Et lorsque tu aimeras tes ennemis, sache qu'une grande grâce divine vit en toi. Si par contre tu injuries tes ennemis, c'est le signe qu'un esprit mauvais vit en toi et qu'il introduit dans ton cœur de mauvaises pensées. Si tu ne les aimes pas, au moins ne les rabroue pas et ne les maudis pas. Et cela sera déjà un grand progrès. Seigneur, tu as donné le commandement d'aimer les ennemis, mais cela nous est difficile, à nous autres pécheurs, si ta grâce n'est pas avec nous. Seigneur, apprends-nous par ton Esprit Saint à aimer nos ennemis et à prier pour eux avec larmes. Seigneur, comme tu as prié pour tes ennemis, ainsi apprends-nous, à nous aussi, par l'Esprit Saint, à aimer nos ennemis. Seigneur miséricordieux, dans la richesse de ta bonté, sauve tous les peuples. Fin de citation. Je conclus ces 6 antithèses, un peu longues peut-être, par le verset 1 du chapitre qui suit. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vu d'eux. Tout simplement cette petite phrase. Ne nous contentons pas d'une justice ou d'une pratique religieuse, pratique de notre foi, qui ne serait que visible, qui serait seulement superficielle. Jésus vient de nous apprendre que c'est à l'intérieur que notre foi doit être la plus déterminante. Qui sont, finalement, en ayant écouté cet enseignement de Jésus, qui sont les vrais chrétiens ? Ce ne sont pas ceux qui observent une loi, ou du moins ce ne sont pas tant ceux qui observent une loi que ceux qui sont transformés à l'intérieur par la loi de Jésus-Christ. Je vous invite à la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour cet enseignement qui nous dérange, qui nous heurte, qui ne va pas dans le sens de notre nature, qui nous contrarie, et c'est très bien. Merci Seigneur, parce que tu nous touches au fond de notre être, que tu touches ce qui est sensible, ce qui nous fait vibrer, réagir, nous lever. Et c'est là, Seigneur, qu'il te faut agir, parce que c'est là que résident les sources de nos actes les meilleurs et de nos actes les pires. Seigneur, touche nos pensées, touche notre regard sur les autres, touche notre âme et les sentiments qui l'habitent de manière permanente. Touche notre colère, touche notre haine, touche nos ressentiments, notre rancune, touche aussi nos découragements, devant des comportements qui nous font mal. Permets, Seigneur, que nous soyons des chrétiennes et des chrétiens qui aiment, y compris ceux qui ne leur veulent pas du bien. Seigneur, c'est impossible selon nous, nous-mêmes, mais ton esprit est en nous et produit son fruit. Et ta grâce est là, qui nous pardonne quand nous chutons, qui nous accueille et qui nous relève. Et toi, Seigneur, toi, tu nous as aimés, tu nous aimes toujours, malgré nos chutes, malgré les déceptions que nous te faisons vivre. Tu nous aimes toujours et tu nous montres un exemple. Et Seigneur, Jésus lui-même, lorsqu'il était crucifié, il a bien dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors nous aussi, Seigneur, qui nous prétendons ses disciples, nous voulons pardonner. Bénis nos cœurs, Seigneur. Amen.